où nous allons commencer le livre aux Philippiens, lettre aux Philippiens. Ça lit plutôt comme une petite carte de remerciement. En fait, c'est justement ça. Paul écrit cette lettre aux Philippiens parce qu'il venait de lui donner un don. C'est quelque chose de très cher à son cœur. Alors, il le remercie. Avant de commencer, j'ai préparé une petite présentation pour nous rappeler un petit peu du contexte, de nous faire entrer dans ce livre que nous allons étudier peut-être pour un mois. Tout d'abord, rappelons-nous de comment cette église a commencé, parce que c'est tout à fait remarquable. L'histoire commence en Actes chapitre 16. Juste avant, Paul, il est en Asie mineure. Et il voulait percer encore plus loin dans l'Asie mineure. Mais le Saint-Esprit l'empêche. Et puis, dans la nuit, il voit un songe, il a un rêve. C'est un homme de Macédoine l'appelle à venir. Et puis c'est suite à ça que Paul et compagnie, ils vont jusqu'en Macédoine. Macédoine, ce n'est pas l'endroit le plus proche de la Turquie actuelle ou l'Asie mineure, mais il fallait monter un petit peu au nord de la Grèce. Et justement, il trouve là une fleuve où se réunit quelques femmes, pas grand monde, mais des femmes juives qui viennent le sabbat pour prier. Alors pourquoi cette rivière? Parce que pour avoir une synagogue, il faut avoir au moins 10 hommes. Il n'y en avait pas. Mais Paul, il va dans le lieu de prière. Il rencontre ces femmes et au milieu d'elles, il y a Lydie qui donne sa vie au Seigneur. Et elle est la première européenne de connaître le Seigneur Jésus. La première église en Europe. Et on s'étonne à tous les soirs. Parce que si le Seigneur avait dit, bon, allez plutôt vers l'Est au lieu de l'Ouest, le monde serait radicalement différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais comme nous avons vu déjà en Daniel, c'est tout voulu. C'est ce que le Seigneur a déjà dit depuis longtemps. Et finalement, il y a aussi cette église qui naît là. Il y a Timothée, il y a Luc maintenant qui le rejoint. Et puis il y a une femme qui est possédée par un démon qui crie après Paul, voilà un serviteur de Dieu. Elle est possédée par un démon, mais elle le fait tout le temps. Tellement que Paul, il en a assez. Et il chasse le démon au nom de Jésus. Et puis, les maîtres de cette femme ne sont pas très contents parce qu'elle était son esclave et ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à ce démon. Alors, il roue de coups, il la mène dans une prison et Paul et Silas, ils sont abattus, ils sont dans la prison. C'est injuste. Et qu'est-ce qu'ils font? Il chante des chansons de louange. Et puis, c'est tellement fort, le Seigneur, c'est comme il répand, mais avec un tremblement de terre. Et puis, les portes sont ouvertes. Le geôlier, il vient parce que du coup, si les gens s'échappent, c'est grave pour lui, c'est sa vie. Et avant qu'il peut vraiment puisse se tuer, se donner la mort, parce que c'est la mort de toute façon. Paul, il arrête, il dit non, 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 nous sommes tous là. Et l'homme, il est tellement frappé qu'il veut connaître comment être sauvé. Et il donne sa vie au Seigneur, lui et toute sa maison. Et de là est vraiment née cette église en Philippe. Le lendemain, Paul, il règle les comptes, si vous voulez, avec les officiers de la ville. Parce que, en fait, ce qu'ils ont fait était tout à fait illégal. Ils protestent. Eux, ils sont dans l'embarras et ils le renvoient. Donc, le livre aux Philippiens, c'est par excellence un livre de joie. Et la joie, ce n'est pas le contentement. La joie, c'est autre chose. Et le grand thème qu'on peut retirer de ce livre, c'est vraiment la joie d'une vie centrée sur Christ. Et quelle était l'occasion de cette lettre? Première chose, c'est écrit à peu près en l'année 61 de notre ère. Donc, et ça, c'est important parce que, si vous voulez, c'est une trentaine d'années après la résurrection de Christ. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez récent dans la mémoire collective. Si vous voulez, on peut parler donc des choses qui se sont passées dans des années 80 avec la même exactitude qu'eux, ils pouvaient parler de la résurrection de Christ. Alors, c'est quelque chose de très récent dans leur mémoire. Aussi, Paul, il était en prison. Et pourquoi il était en prison? Parce que il avait fait appel à César. Bon, si on remonte encore plus loin, Paul, il avait cette tendance néfaste de prêcher l'évangile partout où il allait, même quand il était à Jérusalem. Et les gens, ils n'aimaient pas ça. Et à cause, justement, de leur mécontentement, il y avait un grand émeute et on l'a arrêté. Et puis, on pensait qu'il était quelqu'un d'autre. Donc, il y avait des histoires, des procès et tout. Ça n'allait nulle part. Finalement, Paul, il fait appel à César. Et avec beaucoup d'années, Paul, il arrive finalement à Rome. Il est prisonnier de sa propre maison. Il reçoit des gens. On pense jusqu'à quelques mois avant son procès. Parce qu'une chose intéressante, c'est à peu près à ce moment-là que Néron, l'empereur, il renvoie sa femme, Octave, et puis il prend une autre femme d'origine juive qui, de son côté, fait appeler quelqu'un d'autre pour les prisonniers. Et alors, on met Paul plutôt dans le prétoire. Alors, il leur écrit suite, ça ce qu'on a dit déjà, suite à un don qui leur a été donné. Et il y a même ce passage en 2 Corinthiens 8 où Paul il fait des éloges aux gens de Macédoine parce qu'en Philippe, ils étaient très pauvres en fait. Mais eux, ils ont donné beaucoup plus. Et il disait ça plutôt aux Corinthiens qui avaient beaucoup d'argent mais qui ne donnaient rien. Enfin, ou pas, peut-être autant dans le même esprit. Alors voilà un petit peu ce qui se passe autour et pourquoi il a écrit cette lettre. Alors, passons maintenant à la division. Comment nous allons lire justement cette lettre? Et première chose, bon, ce sont des salutations que nous allons lire tout à l'heure, des salutations typiques poloniennes. Ensuite, Paul, il s'ouvre son cœur. Il leur dit de tout son cœur merci pour ce don. Il leur dit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi il les aime tellement. Justement, ce livre est un peu particulier. Le mot péché n'y est pas. C'est vraiment une lettre familière et très, très chaleureuse. Et puis, puisque c'est Paul qui l'a écrit, il y a beaucoup d'exhortations. Quelles sont les exhortations de ce livre? Alors, on va les lire. D'abord, ne soyez pas intimidés par ce monde. Et c'est fort de quelqu'un qui est en prison. Deuxièmement, il dit, mais ayez la pensée de Christ. Une autre exhortation, il dit, suivez des bons exemples. Il va donner quelques bons exemples à suivre. Et puis, il dit, puisqu'il y a des bons exemples, faites attention aux mauvais exemples. Il y a des faux frères. Mais faites attention, ne vous fiez pas à eux. Puis il dit, poursuivez la perfection. La perfection en Christ. Et surtout, réjouissez-vous. Enfin, il dit ses remerciements. Et ça, c'est, s'il vous plaît, notre étude en Philippiens. Alors, si vous n'avez pas encore fait, merci donc de tourner dans vos Bibles en Philippiens, chapitre 1. Et nous commençons. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant que c'est déjà Paul et Timothée écrit. On se rappelle un petit peu de notre film tout à l'heure. Et Timothée était là. C'est-à-dire au début de cette église, il y avait toujours Timothée et Paul. Alors, il y a quelque chose là, je pense, de proche. Il se présente en tant que serviteur, mais au sein. Et ça, c'est important aussi parce que dans d'autres livres, on parle aux fidèles, ou à l'église, mais aux saints. Qui sont les saints? Bon, ce ne sont pas ceux qui vont devenir des statues dans les églises, mais les saints, en fait, ce sont toute personne qui est rendue saint par Christ, qui a été purifié par le sang de Christ et qui vit parce que Christ vit en eux. Et donc, il est mis à part, il est saint, elle est sainte. Et puis, regardez cette petite phrase aux évêques et aux diacres. Et ça, c'est aussi intéressant parce que la première église en Europe commence déjà à prendre forme. Aux évêques, il ne faut pas penser, si vous voulez, aux gens avec des petits chapeaux un peu marrants qui portent des bâtons. En fait, évêque, dans le langage originel, ça veut dire « celui qui veille ». Donc, quelqu'un qui est un responsable dans l'église. C'est un ancien de nos jours, un pasteur. Un diacre, c'est un autre mot pour serviteur. Ce sont ceux qui aident de quelque manière. Ceux qui aident à mettre des chaises, par exemple, qui sont là quand l'église est ouverte et quand l'église est fermée, qui font énormément de choses. Et à tous ces gens-là, à tous les saints, qui sont même dit avant les évêques et les diacres, notés, comme les premiers sont les derniers sont les premiers, il dit grâce et paix, soit donné de la part de Dieu. Grâce et paix. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix sans la grâce. La grâce qui est la faveur imméritée de Dieu. Il n'y a pas de paix réellement sans cette grâce. Et puis, si nous recevons pleinement la grâce de Dieu, nous recevons sa paix aussi. Et c'est de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est son salutation. Et puis, nous entrons dans cette passage où il ouvre son cœur et dit « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Alors ces prières envers eux sont des prières de joie. Vous connaissez, il y a des gens pour qui on prie, et on prie différemment. Il y a la personne en difficulté, et on est accablé aussi, parce que quand il y a quelqu'un qui souffre, nous souffrons aussi. Et lorsque nous prions pour ce frère ou cette sœur, le cœur parfois est lourd aussi, on prie. Et, ou bien il y a d'autres aussi, on est tout content parce que tout va bien. Juste, leur nom fait sourire. C'était le cas des Philippiens. Lorsqu'ils pensent à eux, c'est justement un bon souvenir. Oui, ah Seigneur, bénis-les. Ils sont tellement chers à mon cœur. Il faut dire aussi qu'il vient de recevoir un don. Un don d'un peuple qui sont très pauvres. Et oh, ça fait beaucoup. Oh, ça, c'est touchant. Ils le font gratuitement. C'est pas comme ils le font en essayant de manipuler ou s'il y a quelque chose derrière. Non. C'est tout simplement parce qu'ils savent qu'il est en prison. Il est dans la nécessité. Et alors, ils ont quelque chose à partager. C'est bien noté aussi que en acte 16, l'Église a pourvu à ses besoins quand il était là et après. Mais une autre chose par rapport à l'Église à Corinthe, là où ils étaient riches, là où il y avait des problèmes d'argent, Paul n'a jamais accepté un centime de la part des Corinthiens. Il voulait lui payer, mais comme il savait qu'il y avait peut-être des choses derrière, il n'a pas accepté un euro de leur part. Un homme de bien. Alors que les Philippiens, il est content. À cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, on se rappelle de ces bons souvenirs ensemble. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme eux, dès le début, ils étaient actifs pour le Seigneur. Dès le début, ils suivent Paul partout. Et même lorsqu'il leur écrit à Rome, ils ont déjà des évêques et des diacres et tout. C'est une église qui s'avance dans le Seigneur. C'est une église qui prend forme. Il est content. Et puis il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes tous des œuvres de Dieu, qu'on a vu en Éphésiens. Nous sommes son poème. Nous sommes son ouvrage, créé en Christ. Et nous ne sommes pas ce que nous le serons, mais nous ne sommes pas non plus ce que nous étions. Il nous renouvelle chaque jour. Et Dieu, quand il travaille, parfois c'est lent. On dit, oh Seigneur, oh, si seulement j'étais mieux avec ceci, ou oh, Seigneur, donne-moi plus de foi. Et puis il envoie des épreuves, et puis on dit, oh Seigneur, sauve-moi de cette épreuve. Et puis, avec le temps, il nous arrache, il nous sauve, et puis on apprend à marcher avec lui. C'est pas facile, mais pour lui, il a un but. Et pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous toucher qui est en dehors de sa connaissance. C'est une consolation, vous savez. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets dans ce monde qui sont inachevés. Regardez par les fenêtres ici, il y a un immeuble qui est inachevé, et ça depuis presque 10 ans. Mais avec Dieu, il n'y a aucun projet qui serait éternellement inachevé. Et il va continuer, il va travailler dans votre vie et il va l'accomplir jusqu'au jour où vous serez avec lui. Et même, là, ce ne serait pas complet jusqu'au moment où il rassemble toute l'Église. Voyez, nous faisons partie d'un grand mouvement, quelque chose que Dieu est en train de faire depuis longtemps. Et il sera toujours au rendez-vous. Il ne manquera jamais. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu est mon témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Oui, il avait ces sentiments dans son cœur. C'est normal aussi d'avoir ces sentiments les uns pour les autres. Surtout pour les frères qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Quand les frères, les sœurs en crise qui nous sont chers. Et quand on les revoit après des mois ou même des années. Et puis, si on est américain, on les embrasse. Ou si on est français, on leur donne un bise. Bon, les sentiments, ils sont. On est content. Et c'est normal. C'est normal. C'est la fraternité en Christ. Puisque nous sommes une famille. Et voilà ce que Paul ressentait. C'est ce que nous voulons ressentir aussi dans l'Église. Je m'étonne toujours quand je voyage et je vais dans une église qui est différente que la nôtre. Et puis, il y a toujours une communion fraternelle. Je reconnais, même si je ne comprends pas la langue, ça m'est arrivé. Et puis, il y a quelque chose. C'est l'Esprit du Seigneur. C'est comme je suis, même si je suis en Allemagne, par exemple, et je ne parle même pas un mot. Mais je suis quand même chez moi puisque je suis dans la maison de Dieu avec des frères et des sœurs. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. N'est-ce pas un peu intéressant que Paul, il prie pour cette église qu'il grandisse dans l'amour? Bon, peut-être en Éphèse, on comprend, puisque c'est une grande ville et il y a beaucoup d'influence un peu partout, et c'est un petit peu comme, enfin, ici à Paris, il y a tellement d'influence, parfois de mauvaises influences, que en ce qui concerne l'amour, bon, c'est très facile de le perdre. Et ben, on fait notre truc, c'est mettre au boulot dodo et l'amour ne figure pas. Alors que, enfin, Philippe, c'est différent, hein? C'est un peu retiré, ils ont peut-être plus de temps, c'est notre rythme de vie. Et eux, bon, déjà, ils sont assez proches à Paul et ils pensent à Paul, c'est déjà une relation beaucoup plus chaleureuse. Et puis il dit, bah, je veux quand même que votre amour abonde, comment ça? Parce que, vous voyez, l'exemple, c'est l'amour de Dieu. Et même si vous êtes peut-être las de l'amour de Dieu, enfin, il y a toujours la capacité d'aimer plus, puisque l'exemple, c'est l'amour de Dieu. Et personne n'a l'amour de Christ. C'est comme, si vous voulez, les différents tours dans le monde. Moi, je viens d'une ville aux États-Unis, à Seattle, où il y a une tour, et ce tour, j'ai grandi en pensant que bon, le tour à Seattle, bon, c'est intéressant, et ce n'était que quand je suis arrivé à Paris et quand j'ai vu le Tour Eiffel, je dis ah oui, bon, ça c'est quand même plus beau et plus grand et plus intéressant. et ben oui, donc peut-être vous avez l'amour de tour de Seattle. Et Dieu, il veut vous donner l'amour de Tour Eiffel. Quelque chose de mieux. Quelque chose de plus beau. De plus grand. Et il y a toujours la possibilité. Et qu'ainsi, vous sachiez apprécier ce qui est important. Vous voyez aussi, peut-être aussi, comme ils sont des gens un peu sentimentaux, souvent, les gens comme ça, ils ne savent pas ce qui est le plus important. Tirer à droite et à gauche par leurs sentiments. Des émotions. Or, les émotions ne sont pas la raison. Et la raison, sans les émotions, c'est un peu froid, mais on a besoin des deux. Et justement, on peut aimer avec le raisonnement. Et ce qui est important, c'est qu'avec l'un et l'autre, ils sont trouvés irréprochables pour le jour de Christ. Pour être remplis du fruit de justice par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et voilà vraiment le désir, glorifier Dieu. Même les œuvres que nous faisons, c'est pour que les gens voient les œuvres que nous faisons et rendent gloire à notre Père qui est aux cieux, que Jésus a dit en Matthieu 5. C'est pas pour voir que nous sommes bons, mais qu'il rend gloire à Dieu. Et puis, il se lance tout de suite, il perd pas beaucoup de temps. Il a passé seulement 11 versets et puis maintenant, il plonge un petit peu dans les exhortations. Et je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Église. Alors, pourquoi il veut qu'il sache ça? On parle de Paul, l'apôtre, le grand apôtre. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé attribue à... à l'avancement de l'évangile. Ben oui, bien sûr, tu es Paul. Mais rappelons-nous un petit peu de ce qui s'est passé dernière fois qu'il était à Philippe. Lui et Silas ont été jetés en prison. Et puis, eux, ils ont loué le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Avec le tremblement de terre, ils finissent par être sauvés. Alors que là, ici, il est en prison. Il n'y a personne pour le sauver. Il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a que ses gardes romains et ses chefs. Et il est peut-être quelques jours devant la mort. Il faut dire, humainement parlant, il doit comparaître devant Néron. Et franchement, est-ce que Néron est le genre de se soucier de la justice de Dieu? Alors, les choses ne semblent pas être très brillantes. Et voilà pourquoi il dit, je veux que vous sachiez que malgré ce que vous voyez, ce que vous entendez, en réalité, les choses avancent pour l'évangile. Comment ça? Il explique. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiant dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup de plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Donc quand il était dans sa maison, là c'était facile, bon, il y avait toujours ses gardes. Mais on imagine Paul qui profite des situations comme ça. Il y avait des chrétiens qui sont venus, ils parlent un petit peu de ce qui s'est passé. Et j'imagine que Paul, il parle un peu haute dans la direction des soldats lorsqu'il parle de l'évangile afin qu'ils comprennent. Et puis finalement, enfin, ces soldats, ils se changent et ça fait qu'ils entendent l'évangile. Et puis, lorsqu'il est bougé et on l'amène dans le prétoire, alors, il y a plus de gardes, il y a plus de soldats, il y a d'autres prisonniers aussi, n'entend. Et on ne peut pas enchaîner l'évangile. Ils ont essayé ça en Chine et il faut dire qu'en Chine, il y a beaucoup de chrétiens et ça continue de grandir et grandir. L'évangile ne sera jamais enchaîné. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça donne courage aux autres. Ils disent, mais franchement, si Paul, il peut faire ça et il est en prison, moi je peux sortir, alors pourquoi pas moi? Et ça donne courage aux autres. Alors, même dans la ville de Rome, le bruit se répand. Et certes, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Alors ça, c'est quand même assez mauvais, assez mal. Il y a des gens donc, qui voient Paul dans les chaînes et disent, mais bon, le grand apôtre Paul, il est dans les chaînes. Alors, moi, par contre, moi, j'ai une petite étude biblique et moi, je peux implanter quelques groupes, cellules partout dans Rome. Alors que lui, il est plutôt frappé par Dieu. Et bon, il est là. Bon, moi, comme je suis libre, donc je prêche la parole. Mais c'est toujours cette espèce de vaine gloire. C'est triste. C'est vraiment dérisoire de penser que on peut faire n'importe quel ministère pour le service de Dieu en essayant d'attraper ou voler un petit peu de la gloire de Dieu. Mais ça se passe. Paul, par contre, il n'est pas dupe, mais il n'est pas déprimé non plus. Et ça m'étonne parce que si c'était moi, je serais contrarié. Mais Paul, non. Il voit l'éternité et dit, ben, au moins, le nom de Christ se répand dans cette ville. Et ce qui est marrant, c'est que là, il voit, ok, bon, peut-être il y a un autre, et peut-être il se moque complètement de moi, et peut-être oui, il a des églises et ça se passe bien, alors que moi je suis en prison. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. C'est le même Dieu qui nous a sauvés par la même grâce. Alors, c'est lui qui m'a mis ici pour, selon ses desseins, et c'est lui qui a mis l'autre de faire ses desseins, et j'imagine qu'il prie pour le frère aussi, qu'il se répande. Mais au moins, que l'annonce de l'évangile se répand. Il dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit un faux prétexte, ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Au moins, il aurait dit, au moins, vous priez pour moi, je ressens que ce soutien que vous me donnez. Et c'est vrai, quand nous prions les uns pour les autres, il y a une force, nous nous aidons les uns les autres, et c'est quelque chose qui nous soude ensemble, on le ressent, c'est réel. Si vous aimez quelqu'un, vous priez pour cette personne. Quelqu'un qui est proche à votre cœur, oui, bien sûr, vous priez, c'est normal que vous priez pour cette personne. Et ça fait que ces prières sont encore plus chères. Et alors, s'il y a des gens qui ont des mauvais comportements, ce n'est pas la plus grave des choses. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de rivalité, justement, dans le royaume de Dieu. C'est une chose aussi assez pervers, mais c'est vrai qu'on peut être un petit peu en compétition les uns contre les autres. Et bon, d'un côté, c'est vrai que ça peut, de façon, si l'esprit agit puissamment en nous, oui, ça peut nous encourager à avancer dans le bon sens du terme. Mais ça peut avoir un effet néfaste où on se jalousie les uns sur les autres et puis ça se dégrade et ce n'est pas beau. C'est pas ce que Dieu veut. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Alors, son corps devient vraiment ce sacrifice et dit que finalement, si je suis avec Christ, si je reste ici, je suis béni. Et Christ sera glorifié dans ma mort, puisque je vais mourir pour Christ, ou dans ma vie, puisque je vais travailler pour Christ. Et comment avoir la joie? Comment est-ce qu'il a pu avoir la joie? Verset 21 nous donne un petit aperçu. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Christ est ma vie, il dit. C'est ça. Alors, tournez rapidement avec moi en Hébreux chapitre 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, voilà la joie du Seigneur. Ça se trouve dans la croix. Ça se trouve dans le rapprochement avec Christ, en suivant son exemple dans les épreuves. C'est quelque chose de beaucoup plus profond de ce qu'on imagine. Cette semaine, j'avoue, une semaine un peu particulière. Et parfois, je me voyais m'énerver pour des petites choses. Et puis, il fallait que je m'arrête et que je repense à tout ce qui s'est passé long terme. Et je voyais qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma chair, je me suis sombré dans l'ingratitude, en fait. Comme un petit enfant gâté. Dans le dans le monde spirituel, je me suis laissé prendre par le diable qui voulait voler ma joie aussi. Et c'est la folie. Parce que j'avais cette pensée cette semaine-là. Alors, j'ai écrit sur Facebook et je pense que c'était vraiment ce que j'avais sur mon cœur. C'est vrai, n'importe qui peut être content et heureux parce qu'il y a des bonnes choses qui leur arrivent. Bon, ça, c'est facile. Hein? On n'a même pas besoin d'être croyant pour ça. Or, la joie du Seigneur, être joyeux dans les épreuves, alors ça, c'est du vrai. Comme dit Abimelech, c'est de lourde. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé, je le sais, je resterai. Et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès, pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi à nouveau et un abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. C'est marrant parce que il va comparaître devant Néron et parle déjà de ce qu'il va faire lorsqu'il est libéré. Quand il le sait, par la foi. Alors, ce qui est intéressant, bon, en ce qui concerne la mort et la vie, c'est là où nous réalisons qu'avec ces versets, être avec Christ ou être sur la terre, c'est là où nous réalisons que lorsque quelqu'un meurt, il va direct avec Christ. Et c'est bien de savoir parce que ça écarte deux hérésies. D'abord, l'hérésie que l'âme est en sommeil jusqu'à la résurrection du dernier jour. Donc, c'est bien, on peut écarter les mormons. Et aussi, on peut aussi écarter cette hérésie qui disent qu'il y a une espèce de chose qui s'appelle la purgatoire. Parce que s'il y avait la purgatoire, pour citer David Guzik, il aurait dit, pour moi, Christ est ma vie et la mort, c'est le purgatoire. Vous voyez. Mais non, c'est un gain parce qu'il serait avec Christ. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Enfin, on va aller vite parce qu'on va peut-être toucher plus cette dernière partie dimanche. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans mon esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Alors cette exhortation, c'est tenez-vous bon. Ne soyez pas intimidés par le monde. Et c'est vrai que dans une société sans Dieu, une société qui, comme la nôtre, a rejeté Dieu et qui a trouvé son propre chemin, entre guillemets, il trouve normal une vie qui rejette Dieu. Et il trouve anormal que les gens puissent aimer Dieu, vraiment être passionnants pour Dieu. Et ils peuvent nous faire croire que, oui, peut-être c'est pas normal, ou bien peut-être je suis un peu bizarre, bon, je sais pas. Et puis, au bout d'un moment, ils peuvent nous faire croire que oui, bah, peut-être c'est un peu honteux. Bon, alors je vais à l'église, alors je m'assure que personne ne me voit lorsque j'y vais. Et puis, et je ne veux pas trop en parler dans les conversations, parce que, enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, ne soyez pas intimidés. Et Je vais garder la raison pourquoi pour dimanche. Prions.